Bonsoir et bienvenue dans Une Heure en Série, le 15e épisode de la première saison, l'émission qui chaque semaine décrypte et analyse l'actualité des séries télé et qui vous conseille ce qu'il faut regarder ou au contraire éviter à tout prix. Cette semaine dans Une Heure en Série, mère modèle et épouse fielleuse dans Bad Mothers sur Teva, prison modèle et innocence bafouée dans Prise au piège sur M6, nounou modèle et parents traumatisés dans Servant sur Apple TV.
Une Heure en Série, Xavier Le Herpeur.
Et pour décrypter toute cette actualité, j'ai avec moi aujourd'hui Isabelle Danel de bandapart.fr. Bonjour Isabelle. Christine Haas. Bonjour Christine, qui fait d'un crumelage, je ne sais pas pourquoi. Attendez que les débats aient lieu. Et Benoît Lagan, qu'on le retrouve tous les vendredis matin dans le 5-7 de Mathilde Munoz.
Salut Xavier, bonjour à tous.
Trois. Du courrier, cette semaine, nous avions évoqué la semaine dernière la série de France 2 Tropique Criminel. Alors, Philippe Conquis nous dit, je réagis à l'intervention que vous avez lue dans votre dernière émission d'un auditeur qui se plaignait de la qualité médiocre, voire lamentable des séries françaises sur les chaînes TV publiques. Je suis totalement d'avis contraire. Personnellement, je ne vais pas m'abonner à des réseaux, la plupart américains, qu'il faut rémunérer. N'oublions pas qu'une partie des Français ne peuvent pas se permettre de se payer, en plus de leur abonnement à un fournisseur, un autre ou plusieurs autres abonnements. Business et business, certes, mais quand même. Donc je vous félicite de parler des séries qui passent sur les chaînes publiques. C'est vrai que nous essayons chaque semaine d'avoir une chaîne, effectivement, diffusée sur une chaîne gratuite, TF1, France 2, France 3, France 5, Arte. Donc voilà, ben, je suis assez d'accord avec vous, il n'y a pas de raison de nier comme ça les autres auditeurs. Et puis, à propos toujours de Tropique Criminel, une remarque concernant donc cette série, je suis scénariste d'origine martiniquaise et vivant à la Martinique, j'ai coécrit les épisodes 4 et 5 de Tropique Criminel. Les producteurs et les créateurs de la série ont donc fait travailler des scénaristes de Martinique sur la saison 1 et, on l'espère, sur la saison 2. Je pense pour ma part que le scénario de l'épisode 4, qui effectivement dénonçait l'homophobie en Martinique, montre une certaine réalité qui est rarement vue à la télévision française. Bien à vous, Florence Combaluvier, on l'avait effectivement signalé et souligné la semaine dernière, mais nous sommes d'accord, effectivement, il faut un peu attendre l'épisode 4 et 5 pour que la réalité martiniquaise soit à l'écran.
Oui, tout à fait, effectivement. Mais c'est important donc, que cette auditrice nous le signale, parce que du coup, nous, quand on regarde les séries, on a tendance parfois, surtout quand elles viennent comme ça du service public, où on sait que les conseillers au programme sont beaucoup derrière, en train de vouloir réécrire beaucoup les séries à la place des auteurs. C'est bien que les auteurs et les autrices nous le signalent, donc merci.
Merci à Florence Combaluzier, et tout de suite le premier débat consacré à Bad Mothers, qui est une série australienne de 8 épisodes diffusée sur Teva depuis le 1er décembre, écrite par deux valeurs sûres de la série Made in Australia, Rachel Lang et Gavin Strohan, connus pour avoir écrit Les Voisins, une série qui révéla il y a de nombreuses années une certaine pop star très connue aujourd'hui. Je n'ai que des nuls. Kylie Minogue. Ah ouais, elle a démarré dans Les Voisins. Vous ne connaissez pas vos classiques, non mais... C'est juste pas possible. Alors, Marie-Annick Rimbaud, la réalisatrice, vous eut depuis sa bulle, et elle a bien raison. Dans les rôles principaux, Tess Obridge, Wolf Creek et Melissa George, The Slap.
T'as déjà eu l'impression que ta vie bascule sans que tu saches pourquoi? Je sais que toi et tes copines vous prenez pour une vraie salope.
Pas du tout. Je suis mariée à un homme merveilleux.
C'est ce qu'elles disent toutes. Pourquoi on fait passer nos enfants avant tout? On a le droit de vivre.
C'était que du sexe, Sarah.
Elle va en prendre plein la gueule.
On le sait, les apparences sont souvent trompeuses. De l'extérieur, ces mères au foyer semblent irréprochables, impliquées dans la vie scolaire de leurs enfants, solidaires, empathiques, elles forment le ciment de la communauté de la petite ville où elles habitent. De l'intérieur, le portrait est tout de suite moins reluisant, elles sont impitoyables, se jalousent, se critiquent quand elles ne se volent pas leur mari. Mais tout vole en éclat lorsqu'une d'elles est retrouvée sur le sol de sa maison de luxe, bien sûr, baignant dans son sang qui a oxy cet insupportable garce peroxydé. Son mari, son amant, la femme de ce dernier, les suspects ne manquent pas entre ragots juteux et indices peu scrupuleusement glanés. Ces Bad Mothers mènent l'enquête. Une série qu'on pourrait situer entre Desperate Housewives et Miss Marple version arabesque. Un grand écart dont, et nous en avons tous été victimes un jour, il faut pouvoir se relever, Isabelle.
Oui, et puis bonjour le recyclage de Big Little Lies. parce que tout y est, le décor de bord de mer, de banlieue chic de Melbourne ici, puisque c'est australien, la structure en flashback, le meurtre, l'enquête de police, le gala de charité. Alors personne n'est déguisé en Audrey Hepburn, il doit y avoir un type à un moment donné qui a dit non les gars, ça on va pas le faire, ça va trop se voir qu'on est dans le plagiat, donc on fait pas ça. Donc voilà, il y a le club des mères select versus le club des mauvaises mères, la meilleure amie traîtresse, le mari déçu par sa vie de famille. Mais bon, l'héroïne, Sarah, ça lui prend quand même 27 minutes 08 pour dire « c'est un cauchemar » en secouant la tête qu'elle a préalablement prise dans ses deux mains. En fait, c'est pas un cauchemar, c'est pas grand-chose.
Oui, c'est plutôt ça.
Ça essaye d'être beaucoup de choses en même temps. Hein. Et notamment, ça essaye d'être une comédie. Mais je dois avouer que la portée humoristique m'a un peu échappé, moi, personnellement.
Bon, dès que c'est un peu fielleux, que c'est un peu méchant et que ça se bourre la gueule avec des martinis vodka à partir de 17h, j'ai un petit crush. Mais bon, Benoît.
Non, alors moi, je trouve que c'est pas déplaisant à regarder comme ça, genre série d'après-midi. C'est pas déplaisant comme ça. Après, effectivement, c'est vite vu, vite oublié. Par rapport, effectivement, à un Desperate Housewife, bah, ça n'a pas sa folie, par exemple. Qu'on pouvait aimer dans Desperate Housewives, par rapport à Big Little Lies, où il y avait des tiraillements émotionnels, là, il n'y a rien. Effectivement, l'humour, moi, je le cherche encore. Et puis, qu'est-ce que, surtout, cette série nous raconte de cette bourgeoisie australienne? Derrière Desperate Housewives, il y avait la volonté de jouer avec les codes du soap-opéra américain, des images que l'on avait en tête. Et puis, au fond, ça décortiquait cette petite bourgeoisie. Là, qu'est-ce que ça nous dit? À rien. Moi, ça pourrait être dans n'importe quel pays anglo-saxon, ça marcherait aussi. Sur le rapport homme-femme, qu'est-ce que ça dit? Ben, pas grand-chose non plus, finalement. Et puis moi, j'en ai un petit peu assez de ces séries qui nous montrent toujours le même type de femmes d'un certain niveau économique. Elles sont dans tous ces pays occidentaux, elles sont toutes riches comme ça et vivent toujours dans ces milieux-là. Moi, je commence à en avoir marre. Du coup, j'inviterais plutôt les auditeurs à aller voir Mytho, parce que là, pour le coup, on a une autre originalité de femmes dans une banlieue pavillonnaire.
Non, mais c'est vrai que...
Alors, Christine côté... A sur Bad Mother...
Ah bah, c'est vrai que côté dialogue, quand on entend devant le cadavre de la salope assassinée, disant à la petite fille, on s'adresse à la petite fille, hein, « Ta mère avait beaucoup de classe, ses chaussures étaient toujours assorties à sa tenue. » Quand même, on en reste pantois, je veux dire. Et
c'est tout le béaba de l'élégance en même temps.
Tout est de cet acabit. Je veux dire que on a l'adultère comme figure de style obligatoire du soap. D'accord, la salope couche avec le mari de sa meilleure amie. D'accord, mais que la vengeance consiste à barbouiller de confiture les essuie-glaces de sa voiture, ça laisse quand même un peu perplexe.
Et en plus, pas très mature, on est d'accord.
On a déjà du mal à croire que cette meilleure amie-là est médecin, et ça voudrait dire qu'elle a réussi ses examens. Et en même temps, on
peut-être
cherche...
Qu'en ils sont moins exigeants, je ne sais pas.
Mais attends, on cherche à intégrer les enfants dans le drame, ok, mais que la fille de la salope vole le petit poussin du fils d'une amie qui du coup kidnappe son chien pour négocier le retour du poussin, je pose la question, est-ce que c'est vraiment un rebondissement scénaristique?
Dit comme ça, élu par vous, ça c'est...
Non mais attends, j'en ai encore une autre, on a la meilleure amie lesbienne maintenant, qui refuse à son ex la garde alternée de leur fils parce que sa nouvelle compagne ressemble à la fée Clochette. Là encore, est-ce l'amorce d'un conflit familial. Si oui, je vais avoir du mal à m'y intéresser. Non, et c'est tout est de cet ordre-là. Pareil, on a la meilleure amie qui est noire. Bon, elle est noire, donc elle est coach sportive.
Ça, c'est normal dans les séries.
C'est moyen, mais on avait déjà la même en prof de yoga. Elle était prof de yoga dans Big Little Lies. Bon, d'accord. Mais qu'elle soit en plus fêtarde, coucheuse, mère irresponsable avec 12 ans d'âge mental, ça fait quand même un peu beaucoup pour une seule personne. Bon, d'accord, c'est la plus jolie. C'est peut-être une vengeance ou un second degré. Mais c'est vrai que cette série, elle est absolument incroyable parce que tous les personnages, elles sont toutes crétines. C'est ça le problème. C'est qu'elles voudraient être Desperate Housewives, mais qui étaient beaucoup plus transgressifs, beaucoup plus... Et ça date quand même d'il y a 15 ans. Mmh. Donc, on aurait pu progresser, surtout depuis Big Little Lies, qui avait quand même apporté quelque chose de très intelligent sur le sujet, sur ces femmes. Donc, c'est vrai que le soap, c'est une spécialité un peu australienne. Ça fait plus de 40 ans qu'ils pratiquent le soap. Et on a l'impression qui sont dans la régression, là.
C'était Bad Mother ou ce qu'il en reste. Hein. Vraiment une espèce de tapis comme ça, de cendres encore à peine fumantes, sur Teva. Et donc, je crois qu'on pourra s'en passer allègrement. Nature of the way as their voices grew, they told me. Agnès Obel, Island of Doom, chanteuse danoise, qui n'est pas sans rappeler les compositions envoûtantes et les ruptures vocales de Kate Bush, et c'est vraiment un énorme compliment dans ma bouche. Kate Bush est la plus grande après Mylène Farmer. En concert en France, on arrête de se moquer à côté, à la scène musicale le 20 mars, c'est évidemment, c'est la playlist France Inter.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de la chronique que le monde entier nous envie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, cher Benoît Lagan. L'effet miroir. Et aujourd'hui, dans l'effet miroir, après les Bad Mothers australiennes, vous vous intéressez aux Good Mothers de la télévision américaine.
Oui, ou en version marseillaise, on parlerait même d'un effet miroir spécial aux bonnes mères. Et dans les séries...
Oh, le courrier qu'on va se taper sur l'accent marseillais de Benoît Lagan.
Alors, moi, je suis toulousain, j'ai mon accent de Toulouse, donc...
Allez-y, voilà. Mon petit.
Bon, bref, dans les séries, donc des Good Mothers, Xavier, on en a beaucoup eu. Logique, et pendant trop longtemps, peut-être, la télévision ne voulait pas froisser l'idéal familial et puis les bonnes ménagères responsables des achats. Alors, quand je vous ai annoncé que j'allais m'atteler ce samedi aux Good Mothers, vous pensiez, de par mon tropisme, Walnut Grovien, que je vous parlerai de Caroline Ingalls, du Minnesota. Eh bien, c'est raté. Non, et puis je l'ai déjà peu fait. Direction donc le Connecticut, l'état de Lorelai Gilmore, la cool mother de Gilmore Girls, une série sur les relations bavardes, passionnées et complexes de trois générations de mères et de filles. Une série que je ne ferai qu'évoquer finalement ce soir. J'y reviendrai, oui, plus longuement, j'aime bien teaser, dans une prochaine chronique, tant Gilmore Girls est beaucoup plus audacieuse qu'on ne veut bien le croire. Mais je vous propose de rester malgré tout dans le Connecticut d'une autre série diffusée en bouche-trou en début des années 2000, le week-end, l'après-midi, Judging et Amy, ou tout simplement Amy en version française, une série centrée sur deux bonnes mères engagées, une fille et sa mère, une série diffusée pour la première fois sur CBS il y a 20 ans. Elle a changé de vie, quitté la ville pour rentrer dans sa maison natale. Une juge pour enfants dévouée à sa famille.
Amy Brenneman. Mon travail, m'assurer que les enfants et les familles soient bien pris en charge.
Ma famille a toujours été ma priorité.
CBS Tonight. Alors, c'est un petit peu embarrassant.
Voilà, c'est pas mal,
ce soir, dans l'effet miroir de Benoît Lagan sur France Inter.
Mais non, c'était pas du tout embarrassant. C'était
mais
très
non,
bien,
vous étiez tous très très bien. Premier prix conservatoire pour tout le monde.
Alors, dans cette série, donc, la juge pour enfants, Amy, doit rendre justice dans des cas que sa mère, Maxine, l'assistante sociale en pré-retraite, perçoit forcément différents. Amy Brenneman, passée auparavant par la série NYPD Blue et que l'on a vu plus tard dans The Leftovers, voulait, effet miroir parfait, rendre hommage à sa véritable Good Mother, qui était juge dans le Connecticut. Tyne Daly, que l'on a vu dans la série policière Cagnier et Lacé, une série qui abordait déjà de nombreuses thématiques sociétales, s'est beaucoup documentée, elle, pour incarner le rôle de l'assistante sociale. Invitée d'ailleurs par l'Association des professionnels de la protection enfantine américaine, elle avait salué à l'époque les travailleurs sociaux qui font tout ce qu'ils peuvent dans un pays qui ne les soutient pas beaucoup. Alors, cette série montre d'ailleurs des femmes au travail qui font tout pour être de bonnes professionnelles et des mères respectables. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu la série, Amy est divorcée. Elle a plaqué son mari pour revenir avec sa fille chez sa veuve de mère. Et entre les affaires judiciaires sensibles, une vie familiale chamboulée, revenir chez sa mère, aussi bonne soit-elle, ce n'est pas toujours facile. Certains trouveront que cette série était un peu trop gentille et pourtant fort documentée. En 6 saisons, 138 épisodes, Judging Amy, avec bienveillance, a réussi à dépeindre avec justesse une autre Amérique, assez éloignée de l'image véhiculée à l'étranger à l'époque. Dans les médias, c'était sous la présidence de George W. Bush. Judging Amy a été créée et dirigée par Barbara Hall, la good mother au fond c'est elle, une scénariste talentueuse connue pour avoir travaillé sur Homeland, ou encore plus récemment, elle est à la tête d'une autre série politique cette fois-ci depuis 6 ans, Madame Secretary. Les histoires écrites par Barbara Hall sont souvent engagées, documentées, des œuvres à observer de près. Si on s'intéresse à la façon dont les séries regardent la société, elle est passée par Urgence, Barbara Hall, elle a aussi travaillé sur I Fly Away, Les ailes du destin, je ne sais pas si vous connaissez cette série, elle est trop méconnue, elle est pourtant passée en France. C'est sur l'histoire d'une famille en pleine période des combats pour les droits civiques. Une série qui mérite qu'on lui consacre un épisode de l'Effet Miroir. À suivre donc.
L'Effet Miroir, une chronique désormais bilingue, à réécouter en podcast sur le site de l'émission Une Heure en Série. Et il est temps pour nous d'aborder le deuxième débat de cette soirée, Prise au piège sur M6. 6 épisodes depuis le 4 décembre.
C'est notre anniversaire. Police.
Martin Monnier a fait retrouver une balle en plein cœur ce matin.
Il vient de découvrir qu'un million d'euros a disparu des comptes de votre entreprise.
Putain, c'est un cauchemar.
Détournement de fonds, meurtre d'un témoin gênant. Vous risquez 20 ans, madame.
Ils ont dit quoi quand tu leur as dit qu'on était ensemble ce soir-là?
Ma femme. Si je parle aux flics, ils apprendront pour nous. Je peux pas lui faire ça.
T'es innocente. Ils peuvent pas te garder.
Ma bande m'a piégée. Ce qu'il faut, c'est trouver des preuves contre lui.
J'ai vu tout de suite que t'étais innocente. C'est pour ça que t'es en danger.
Alors, il y a clairement des jours avec et des jours sans. Pour l'infortuné, Anna, c'est un jour sans. Arrêtée le matin pour un meurtre qu'elle jure ne pas avoir commis, elle comprend vite que son seul alibi, l'homme marié dont elle est la maîtresse, non seulement ne daignera pas témoigner en sa faveur, mais qu'il est prêt à tout pour lui faire endosser le crime. Du coup, le père d'Anna et son frère vont essayer de prouver son innocence, mais le temps presse, car Anna est incarcérée dans une prison dirigée par un directeur altruiste qui croit au respect de la personne. Évidemment, il est bien le seul. Violence, harcèlement, menace, chantage, trafic de drogue, meurtre sauvage vont vite faire partie du quotidien bien pourri de notre héroïne. Adaptation très libre, on va dire, de la série espagnole vis-à-vis d'Alex Pina. Et Alex Pina, c'est le Midas de la série européenne, puisqu'on lui doit la Casa del Papel. La série française, donc, Prise au piège, a été réalisée par Karim Ouaret, qui a fait ses casses sur Shérif. Et c'est avec Élodie Fontan, Manon Hamzam, Jean-Hugues Anglade et Vincent Rottier. Alors, Christine, vous qui avez bien connu les incarcérations à répétition, vous êtes la spécialiste pour prendre la parole
en blonde. Donc c'est vrai que la jeune bourgeoise blonde qu'on a déjà dans Derrière les barreaux, la série espagnole, et qui atterrit dans un univers aux antipodes du sien, ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'Orange is the New Black, qui est la copie conforme exactement aussi de Élodie Fontan, à ceci près que l'uniforme est jaune citron. On est donc dans Yellow is the New Orange.
C'est vrai, c'est pas
dans une version beaucoup moins transgressive et dérangeante d'une communauté humaine en réduction, mais malgré tout, on est dans un récit qui est assez immersif, assez efficace, avec un vrai sens du rythme, une tension dramatique, la collection habituelle de pensionnaires qui tentent de s'en sortir chacune à leur manière, avec les clans qui mènent la danse et qui s'affrontent, meurtre, tabassage, guerre d'influence. Les questions restent toujours les mêmes pour l'héroïne. Comment survivre dans un univers qui lui est étranger? Comment franchir la ligne jaune afin de se protéger, mais au risque de se perdre. Alors, il y a une très belle utilisation du décor. Mmh. La série est tournée
entièrement d'accord
dans le sud de la France, mais elle est aussi tournée dans la prison désinfectée de Breda, aux Pays-Bas, qui apparemment sert de décor à un truc qui s'appelle Escape Games. C'est un très bel espace que cet énorme dôme aux multiples coursives, sur plusieurs étages, sur lesquels donnent les cellules, et qui respire le vécu carcéral.
C'est un vrai personnage à part entière.
Oui, on voit vraiment les couloirs exigus, la cour de la prison, le réfectoire, les douches, tout ça est très très bien fait. Et je dois dire que je trouve qu'Élodie Fontan est assez convaincante. On sent bien les divers états émotionnels par lesquels elle passe. passe, la panique, la rage, le désespoir. Bon, elle n'est pas aussi bonne que Manon Azem en Caïd de la prison, qui est parfaitement électrique et inquiétante. Ça, c'est sûr. Et je suis, je dois dire, assez fan de Vincent Rottier, toujours intense, qui charismatique, qui joue le frère, et qui forme un très beau duo avec Jean-Hugues Anglade, en père et fils, hein, la relation distendue et complexe, qui vont devoir faire équipe pour sauver la sœur. Voilà.
Isabelle Danel, tout à l'heure, je vous ai malheureusement un tout petit peu interrompu avant la fin de votre intervention. Donc là, je vous laisse tranquillement nous dire jusqu'au bout tout le bien ou pas le bien que vous pensez de Prise au piège.
Ben, je vous trouve très très gentille, Christine, oui. Parce que effectivement, je suis d'accord sur c'est le décor. Mais en revanche, pour le reste, c'est quand même l'histoire la plus banale qui soit. Et on sent que le scénariste s'est cassé je sais pas quoi, pour essayer de trouver...
On peut dire, on a dit salope, on a dit garce, vous pouvez dire casser le cul, on est sur France Inter.
Non, pour essayer de trouver des rebondissements, alors faut que ça bouge, donc il y a l'arrivée d'un paquet de drogue par drone, un emprisonnement au trou, la découverte qu'une des protagonistes est enceinte, et la nécessité d'une greffe du cœur urgente pour une autre, agrémentée de menaces en tout genre, de passage à tabac et de scènes de parloir avec le père et le frère d'Anna. On a vu que 4 épisodes sur les 6.
C'est vrai, j'ai oublié de le préciser, vous
avez
bien fait.
Et là, moi, je me demande s'il va y avoir, je sais pas, la tuberculose, les extraterrestres, enfin, quelque chose, voilà. Il va se passer des choses, c'est clair.
De mauvaise foi.
Il va se passer des choses dans ces 2 épisodes et on nous les cache. Moi, je trouve ça dommage, non, hein, vraiment.
Attendez, Benoît, non. Avant de couper la parole à vos petites camarades, Isabelle a encore quelque chose à dire. Là, je suis dans l'impossibilité de lui interdire de le faire. Donc...
Non, c'est, voilà, y aura-t-il des cailloux dans les lentilles? Enfin, je veux dire, on est dans vraiment la surenchère de petites et de grandes choses. Je suis d'accord, c'est un genre en soi, la série carcérale, mais là, franchement, je pense qu'on a touché le fond.
Moi, je suis pas
alors,
du tout...
Benoît, je vous annonce, voilà, la série, les douches, les femmes entre elles, là, tout de suite, hein.
Non, mais je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve que si on doit comparer avec d'autres séries, par exemple Prison Break, qui a rajouté des caissons justement par rapport à ces rebondissements complètement improbables, je trouve qu'ils sont plutôt dans la retenue. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans cette série, c'est que ça reste une série de personnages. Et que donc finalement, l'action en elle-même, même malgré les rebondissements que vous venez de signaler, c'est pas très grave en soi. D'ailleurs, sans dire qui, l'histoire du meurtre, on sait très vite, en regardant la série, qu'elle est effectivement pas coupable. C'est montré très vite. Dans une série traditionnelle, on aurait attendu la fin pour nous le montrer. Et on aurait créé d'autres ficelles pour essayer de nous faire croire à un tel. Là, on balait les trucs très très vite. Donc non, moi je trouve que c'est vraiment plutôt réussi. Le décor, effectivement, complètement d'accord sur cette idée. Moi, j'ai retrouvé dans un autre genre le plaisir qu'on avait avec Oz à voir un décor extraordinaire. Oz jouait sur un décor qui paraissait pas du tout réaliste, mais qui fonctionnait vraiment. Cette histoire n'est pas réaliste, mais les personnages, dans leur action et dans la façon dont ils avancent, sont justes et touchants. Et moi, j'ai vu que 4 épisodes, on a tous vu que 4 épisodes, et j'ai vraiment envie d'avoir la suite, parce que je me dis, comment vont-ils finir ces personnages? Et pas ce qu'ils vont vivre, comment vont-ils finir juste?
Mais c'est vrai qu'on pense beaucoup à Oz, hein, l'unité pilote conçue pour faciliter la réinsertion et qui laisse une grande liberté de mouvement, tout ça, ça s'inspire de Oz, qui avait été créé quand même en 97, donc c'est pas aussi assez vieux, et c'était très précurseur de la part de Tom Fontana, qui avait imaginé un univers justement très réaliste, ultra violent et en même temps très controversé, qui avait amené d'autres productions comme Prison Break et Orange is the New Black. Et c'est vrai que parfois ici le scénario est un petit peu incohérent, les histoires parallèles des prisonnières qui parasitent un petit peu la narration, mais en même temps elles pointent du doigt certains aspects assez douloureux de la condition des prisonnières. Bon, c'est un peu lourdingue, mais les abus sexuels, les problèmes de santé, les relations familiales compliquées, les conflits de culture, c'est là.
Et pour une série d'M6 qui a très peu de séries de prime time ambitieuses, c'est quand même une vraie réussite, je trouve. Voilà.
Prise au piège sur M6, comme vous venez de le rappeler, et c'est depuis le 4 décembre.
Plus la maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit souris à la vie quand tu croises le bonheur, si vite arrivé, si vite reparti. Je bouge à la souris, cours plus après le bonheur quand il est devant toi, que tu souris. Voilà ma seule terre. De ton absence, la vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois,
reconnu la voix suave de M. Mathieu Chédid. Le titre, c'est Thérapie, extrait de son dernier album, Lettre infinie, un titre écrit pour son chat décédé. Oui, je sais, dit comme ça. Alors, en concert, Mathieu Chédid, du 16 au 19 décembre à l'Accor Hôtel Arena. C'était quand même mieux quand on disait Bercy.
Bon, on peut continuer à le dire.
Non, mais ça nous rajeunit pas. Et puis, il sera en France en tournée jusqu'en juillet. Il passera par Bourges, Nantes, Toulouse. Excellent album, excellente chanson. Playlist de France Inter, bien sûr.
France Inter. Une heure en série.
C'est l'heure du petit conseil littéraire et cette semaine, je vous ai choisi Affinité de Sarah Waters, qui est paru chez 10-18. Alors, ça n'est pas à proprement parler une nouveauté, puisque ce livre date de 2003, mais il me semblait que pour accompagner Prise au piège, ce roman convenait parfaitement. Nous sommes en 1874. La jeune mademoiselle Prior, jeune fille issue de la bonne société anglaise, mais percluse de secrets et de mal-être, devient visiteuse de prison. Parmi les femmes incarcérées, elle fait la rencontre de la troublante et fascinante Selina Dawes, médium de son état. Les romans de Sarah Waters sont comme des chaînons manquants dans la littérature britannique, comme les pièces perdues d'un puzzle. Bien que contemporaine, elle vit aujourd'hui à Londres, cette autrice situe régulièrement ses romans à l'époque victorienne dont elle emprunte à la fois le style et les thématiques, le social, le fantastique ou comme ici le spiritisme qui était très à la mode à l'époque, pour convoquer les fantômes de celles qui ne furent jamais représentées justement en ces temps. Des femmes indépendantes, affranchies, fières ou malmenées, tout ayant comme point commun d'être réprouvées par une société hypocrite, avec souvent des héroïnes lesbiennes. Sarah Waters ne cache pas son affection pour les femmes, ultime symbole des passions interdites. Affinité reprend tous ces thèmes avec une virtuosité absolue. Sa description des prisonnières femmes ayant refusé de céder à l'ordre établi est un manifeste féministe et militant qui salue la mémoire trop vite oubliée de celles qui tombèrent sous le joug du patriarcat meurtrier de ces temps liberticides, époque obscure où il ne faisait pas bon être différent d'eux. Affinité de Sarah Waters chez 10-18. Troisième et dernier débat, Servante sur Apple TV depuis le 28 novembre. 10 épisodes, mais à ce jour, nous n'en avons vu que 3, les 3 premiers. Vendu hâtivement et un rien abusivement comme la nouvelle série de M. Night Shyamalan, l'auteur au cinéma du Sixième Sens et de Glass, qui n'est ici que producteur exécutif et metteur en scène de l'épisode pilote. Pour le reste, tout est dû à Tony Bascalope, moins connu, donc moins vendeur. Un auteur pourtant que l'on a pu voir figurer au générique de 24 Heures Legacy ou encore de Berlin Station dont il était le producteur. Un couple de wasps assez friqués, hein, de Philadelphie, elle est journaliste à la télé et lui, palais d'exception pour chef à la mode, accueille une nounou pour s'occuper de leur bébé. Double hic dès le départ, la jeune fille au père a l'air bien bien flippante et le bambin pas tout à fait comme les autres.
Léane Gresson.
Bonsoir, Madame Turner.
Bonsoir, je m'appelle Sean.
C'est un plaisir, Monsieur Turner.
Je m'attendais à une personne plus âgée, peut-être plus normale aussi.
Je parie que Jericho et toi allez vous entendre à merveille.
Et elle trouve pas ça bizarre.
On a perdu Jericho quand il avait 13 semaines. Ça a été dur pour Dorothy. C'est la seule chose qui l'ait calmé.
Il est l'heure que j'emmène Jericho faire sa promenade.
Vous avez engagé une nounou pour une poupée.
Si Abel se souvient de ce qui s'est passé.
Savez-vous au moins qui vous avez fait venir dans votre demeure ?
Alors avant de vous céder la parole, on rappellera au casting Lauren Ambrose de Six Feet Under, entre autres bien évidemment, Toby Kebbell qu'on a pu voir dans Kong Skrull Island et Nell Tiger Free dans le rôle de la nounou flippante que l'on a évidemment vu dans Game of Thrones. Alors Benoît.
Alors moi j'ai été plutôt emballé au départ, on va dire, par la série, par le fait que on est alors soi-disant dans un univers de Shyamalan. Du coup, on retrouve des choses qu'on a pu voir dans son cinéma. On s'attend à des renversements, à l'art du renversement de Shyamalan, par exemple. Et là, du coup, par exemple, le renversement.
Oui, c'est le roi du twist, voilà. Hein, du coup théâtre final.
Mais sauf que là, les twists sont doux, on va dire. C'est-à-dire que par exemple, cette nounou, moi, elle me fait pas flipper. C'est la mère qui me fait flipper dans le premier épisode. Je me dis, oulala, la mère, la façon dont elle tape sur la table en permanence.
Donc vous la rembourserez, comme là, vous venez de la casser, vous la rembourserez.
Dans cette claque dans ses mains quand elle fait visiter la maison, elle fait vraiment flipper. Ses tics de physique, enfin, sont vraiment effrayants. Alors que, bon, on la sent timide, on sent bien qu'elle vient d'on ne sait pas où, qu'on est dans l'univers de Shyamalan. Donc, qu'il va se passer quelque chose d'atroce. Et puis, petit à petit.
Elle regarde ses pieds tout le temps, elle est habillée avec des rideaux, mais. Et elle surgit toujours quand on s'y attend pas. Non, et c'est un peu flippant.
Sauf que c'est au bout du deuxième épisode qu'on commence à voir qu'elle fait des choses un peu étranges. Ensuite, le bébé. Difficile pour le critique de parler de cette série sans révéler certaines choses, donc moi je vais me permettre de, je sais pas que
c'est dans la bande annonce.
Oui, j'étais comme vous, j'étais très prudent, mais bon,
bref. Donc voilà cette histoire de bébé quand même étrange et le comportement du coup du père avec ce bébé au départ. Et donc tout ça est plutôt bienvenu. Ensuite, donc les épisodes durent à peu près 35-37 minutes, hein, à peu près. Moi, je trouve que c'est 10 de trop. Parce que ça m'a fait penser à des épisodes de la quatrième dimension. Du coup, j'aurais presque aimé que les épisodes soient vraiment moins de 30. Je pense qu'il y a vraiment 10 minutes de trop pour que ça resserre un petit peu, parce que il y a des moments très intéressants, très intrigants, mais parfois ça se dilue un petit peu. Mais c'est quand même très maîtrisé, c'est plaisant. J'ai envie de voir la suite après ces 3 épisodes. Donc voilà, voilà où j'en suis.
Il faut peut-être préciser qu'on ne quitte pratiquement jamais la maison, même exactement. Les extérieurs sont tournés de manière à ne pas avoir à quitter la demeure un peu inquiétante, elle aussi.
Mais c'est vrai que Shyamalan met tout son savoir-faire à la série, c'est-à-dire tout son savoir-faire horrifique. Alors il aime les plans aériens, les close-up frontaux sur les visages, les jeux d'ombre et de lumière, tout est fait pour susciter un danger omniprésent. Le rythme est mesuré, le malaise s'installe doucement, tout ça est appuyé par une bande-son instrumentale très oppressante. On entend la pluie frapper sur les carreaux, l'eau du bain qui coule, les plats que le Sean prépare. Alors Sean, faut dire que c'est un chef gastronomique. Alors ces plats semblent à la fois délicieux et répugnants pour cette pauvre fille, cette pauvre nounou qui vient du Wisconsin, il cuisine des moules, des anguilles, tout ça. Tout ça, c'est vrai qu'on est dans un huis
c'est
clos.
C'est long.
Voilà, on est dans un huis clos qui est nerveux, qui est envoûtant, coincé dans cette
maison.
C'est vrai
que moules et anguilles, je n'avais pas fait le rapprochement, c'est un peu limite.
On est dans cette maison où, et lorsque les personnages sont à l'extérieur, ils n'apparaissent qu'à travers un écran, hein, que ça soit la télévision, la tablette ou que ce soit un téléphone. Mais en fait, malgré tout ce dédale, cette mise en scène parfaitement horrifique, on est rarement déstabilisé, on n'a pas vraiment peur. Et ce désir absolu d'être mystérieux à tout prix, moi, ça suscite une grosse frustration. C'est-à-dire que les questions se bousculent et elles restent toujours sans réponse. Les épisodes de 30 minutes ne clarifient absolument jamais rien. Les rebondissements sont parfois un peu nébuleux et la série avance pour aller nulle part. Donc, effectivement, pour moi, le suspense qui est très très bien installé avec beaucoup de talent n'est jamais récompensé par une explication satisfaisante.
Alors, juste avant de vous donner la parole, Isabelle, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une idée par épisode. On ne va pas dire quelle est, par exemple, celle qui traverse le deuxième épisode, qui n'est pas inintéressante, autour du père, voilà, qui est victime, visiblement, d'agressions un peu étranges, extérieures et internes. Et puis, dès le troisième épisode, c'est disparaît. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a changé de scénariste, qu'il n'a pas lu ce qu'avaient fait les copains avant. Enfin, donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'utilisation du mot frustration, parce que même si la mise en scène est là, même si on prend un soin particulier à multiplier les lignes de perspective dans cette maison, comme ça, dont on entend chaque craquement de marche, il y a un truc qui fait que, ben ouais, on sort un tout petit peu les trucs, mais pour l'instant, ça ne s'agglomère pas dans une série un peu inquiétante, un peu digne de ce nom, même s'il y a régulièrement des effets de surprise qui sont plutôt réussis et plutôt saisissants. Isabelle Danel.
Je suis pas d'accord du tout. Moi, j'étais immédiatement ferrée par l'ambiance, le décor, la lumière, l'étrangeté des personnages, les obsessions, la cuisine qui ressemble à une constante nature morte avec, effectivement, donc on a cité un certain nombre de choses, il y a aussi des lapins,
oui,
détruites. C'est-à-dire qu'il y a constamment des animaux morts qu'on dépèce, qu'on dépiote, etc. Il y a des légumes avec des couleurs invraisemblables. Enfin, c'est en permanence ça. Cette maison est comme une boîte dont on ne sort pas, effectivement, on l'a dit. Et moi, j'ai été mais constamment intéressée par tout ce qui se passe. Je suis d'accord que le troisième épisode est un peu décevant, mais les deux premiers épisodes m'ont complètement tenue et effectivement, j'ai envie de la suite. J'ai un peu peur de là où ça part justement à cause du troisième épisode, mais tout ça m'intéresse. C'est les femmes contre les hommes, c'est une série sur le déni, sur le deuil impossible, sur ce qu'on veut voir, sur ce qu'on ne veut pas voir, et moi, ça m'intéresse énormément, quoi. En plus, retrouver Lorraine Ambrose, c'est un vrai bonheur. Elle en fait des caisses, mais elle est vraiment effectivement très, très effrayante. Et il se passe des choses entre ces deux femmes qui m'intéressent beaucoup et qui font de cette série quelque chose de très prometteur. Enfin, en tout cas, des trois épisodes qu'on a vus.
Il nous reste juste un petit peu de temps pour une fois. On va parler d'Apple TV, puisque c'est la première série d'Apple TV que nous avons mis en débat. Donc, plateforme qui vient de démarrer. Peut-être dire un mot quand même, puisqu'on a tous un coup de cœur pour Morning Show. Marjolaine Boutet en avait parlé justement dans le plateau télé. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a plusieurs séries donc, que Apple TV a dégainées. Celle-ci qui est ambitieuse, mais dont nous attendons un tout petit peu de voir si l'effet va se transformer. Morning Show, ça a quand même en revanche une vraie gueule dramaturgique, politique. Elle a un vrai pied dans la marge, j'allais dire, du politiquement correct actuellement aux États-Unis.
Ah, ça y va.
Ça y va. Voilà. On a une minute pour en parler. Voilà.
Ah bah c'est impressionnant, j'ai pas tout vu, il y a, je sais pas, 5 épisodes disponibles pour l'instant.
La coprésentatrice d'un show du matin découvre au tout début de la série que son coprésentateur est soupçonné de harcèlement et donc va être évincé du plateau.
Non mais la cause, ce qui est formidable, c'est que la coprésentatrice, donc, qui est Jennifer Aniston, qui présente le Morning Show avec ce cherche quelqu'un pour le remplacer en fait, et elle trouve une reporter qui est grande gueule, qui vient du sud des États-Unis, qui est absolument improbable, qui est Reese Witherspoon. Et après, c'est un face à face absolument extraordinaire entre ces deux femmes qui ont des personnalités très fortes et qui découvrent et qui révèlent des tas de choses sur le fonctionnement de la télévision aux États-Unis.
Non, parce que moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que il y a une tradition dans la série américaine de raconter les coulisses de la télévision par la sitcom, et que je trouve d'avoir mis Steve Carell et Jennifer Aniston dans les rôles principaux, enfin de ces deux animateurs, bon on sait que l'un est éjecté, mais je trouve ça déjà très malin. Je trouve que pour Apple TV de mettre une série sur les coulisses de la télé, c'est aussi plutôt malin, et on aurait pu penser que ça aurait été que ça. Or, ça va tout de suite, très vite, beaucoup plus loin. On a une description comme jamais on avait eu dans les séries auparavant, même si beaucoup de séries ont été nourries par Me Too, l'affaire Weinstein, tout ça. Là, ça va beaucoup plus loin, avec notamment ce face-à-face entre le Steve Carell et un réalisateur prédateur, où ils veulent faire un grand documentaire sur toutes ces victimes, finalement, de Me Too, ces hommes victimes de Me Too, et où là, un des personnages finit par dire à l'autre, oui, mais toi, tu l'étais vraiment prédateur. Donc, je trouve ça vraiment poussé, bien écrit et bien ficelé.
Et il y a la prise de pouvoir des femmes aussi qui est impressionnante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est retourné en permanence. Et le coup d'éclat de Jennifer Aniston, quand tout d'un coup elle décide, elle voit qu'elle est sur la sellette et elle décide de prendre les rênes, elle les prend non seulement en faisant donc ce choix particulier de faire rentrer l'autre jeune femme, mais surtout, elle ne veut plus s'excuser du tout, à aucun moment. C'est-à-dire qu'elle arrive devant les chefs en disant, c'est les excuses que vous attendiez, vous les aurez pas, quoi. Et ça part dans une autre direction qui est beaucoup plus volontariste, mais que je trouve très très tenue, en tout cas moi, dans ce que j'ai vu.
et avec en plus un moment de chant assez génial qui remplit la case du divertissement plaisant aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit Jennifer Aniston chanter de la comédie musicale et rien que pour ça, ça vaut le détour.
Donc, si j'en crois un tout petit peu vos retours, lancement plutôt réussi pour Apple TV.
Non, vraiment. Là,
avec
c'est
des séries de qualité.
Vrai succès.
Voilà, bah, on en reparlera bien évidemment régulièrement dans une heure en série. What a drag it is getting old. Mother's Little Helper, un classique de 1966, interprété, ai-je besoin de le préciser, par les Rolling Stones. Vous auriez vu Christina, elle était déchaînée. Vous les avez bien connus en plus, vous les Rolling Stones. Vous avez suivi de nombreuses tournées. Voilà, très bien.
France Inter, une heure en série.
Et c'est le moment où je vous propose une petite pépite inédite. Il s'agit de Vienna Blood, qui est diffusée actuellement sur la BBC 2. Il s'agit de l'adaptation des romans policiers du britannique Frank Tallis, paru en France chez 10-18 dans la collection Grand Détective, des intrigues qui nous replongent dans la Vienne d'avant la Première Guerre mondiale, une ville où règnent déjà les prémices du conflit à venir et des mots que connaîtra le XXe siècle naissant comme l'antisémitisme. Mais c'est aussi une ville-théâtre d'une créativité débridée, comme en témoignent les tableaux de Klimt, de Schiele, ainsi que les compositions musicales de Mahler. Une ville donc à deux visages, où vont se produire d'horribles meurtres. C'est une série policière sur laquelle enquête l'inspecteur Oscar Reinhardt de la police viennoise et le psychiatre Max Liebermann, véritable héros des aventures, jeune émule de Sigmund Freud, fasciné par la psychanalyse balbutiante. Une série à ce jour de 3 épisodes de 90 minutes, scénarisée par Steve Thompson, qui a travaillé sur Sherlock et le Docteur Who, donc on peut lui porter un certain crédit d'excellence. Il le vérifie avec cette série captivante où, outre l'excellence des intrigues, on savoure la qualité de la mise en scène qui joue des ombres projetées et des lumières vacillantes pour mieux dire visuellement la dualité de ce monde putride qui plonge peu à peu dans les ténèbres. Les cinéphiles apprécieront particulièrement les nombreuses références cinématographiques avec, entre autres dans le premier épisode, un hommage extrêmement réussi au film Le Troisième Homme de Carol Reed et le célèbre final sur la Grande Roue de Vienne. Vienna Blood, diffusé sur la BBC Two et on l'espère vivement en France. Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes au mois de décembre et depuis un certain nombre d'années, le 25 décembre, c'est...
Noël.
Alors évidemment, chaque année, jingle on est un petit peu... J'allais dire embarrassé, et voilà, vous me notez de la bouche. Donc chaque année, on est un petit peu embarrassé, et par le fait que Benoît Lagan tienne absolument à chanter l'intégrale du disque des meilleures chansons de Noël, et aussi par le fait que, qu'est-ce qu'on va offrir à Noël, qu'est-ce qu'on va recevoir, qu'est-ce qu'on va demander, non, pitié pas les pantoufles que notre maman veut absolument nous offrir, mais plutôt peut-être un coffret DVD. Alors je vous ai demandé à chacune et à chacun de nous trouver le coffret DVD que vous aimeriez offrir, ou peut-être recevoir. Alors, on va remonter un peu le temps quand même, donc on va commencer chronologiquement par Isabelle Danel qui va nous parler des nouvelles aventures de Vidocq, et ça nous ramène tout de suite à l'enfance et au souvenir d'une excellente série.
Eh oui, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, et justement,
ça,
ce serait
de
bien de s'offrir sous le sapin la possibilité de voir façon old school une des séries les plus inventives de l'histoire de l'ORTF. Les nouvelles aventures de Vidocq, donc. 13 épisodes répartis en deux saisons en 71 et 73. C'est donc l'histoire vraie, même si très très romancée par le scénariste Georges Neveu, du véritable François Vidocq, bagnard devenu policier sous l'Empire. Ce sont des aventures qui vont à 100 à l'heure, à cheval, en calèche, des rues pavées de Paris à ses toits, en passant par ses catacombes. L'historique le dispute au romanesque, c'est désinvolte et rusé, parfois très osé pour l'époque et dans le même temps très populaire aussi.
C'est du dire aussi de certains vidéos très inquiétants.
Oui, c'est du divertissement avec un grand D, c'est signé Marcel Bluval, génial réalisateur dont la version de Don Juan en 65 reste et restera dans les annales, et les acteurs, Claude Brasseur et Daniel Lebrun en tête, sont exceptionnel.
Je suis entièrement d'accord. Merci d'avoir ressorti un peu de la naphtaline. Alors, vous vouliez juste dire que les épisodes précédents, les aventures de Vidocq ?
Je voulais surtout dire que c'est un coffret donc édité par l'INA. Et alors, pour ceux qui se disent 73, l'ORTF, un quoi, qu'est-ce, je précise que c'est en couleur. Et elles sont très chatoyantes en plus, mais qu'il existe évidemment en noir et blanc les 13 épisodes précédents des aventures de Vidocq, malheureusement pas en DVD à ma connaissance, mais sur le site de l'INA. Et c'était également Marcel Bluval et co-signé avec Claude Lourcet, déjà écrit par Georges Neveu, et c'était le regretté Bernard Noël, qui était lui aussi très sémillant et formidable dans ces épisodes.
Dans le rôle de Vidocq. Merci beaucoup Isabelle. Pardon de vous avoir interrompu. On remonte le temps, mais alors pas de beaucoup hein, quand même, avec Benoît Lagan, qui va nous parler de Magnum.
Oui, oui, Magnum. Magnum, la série diffusée traditionnellement les dimanches après-midi entre Jacques et Martin. C'était la tradition dans les années 80. On avait Magnum, je vais pas faire l'affront de rappeler ici le détective hawaïen Tom Selleck, ancien vétéran du Vietnam, qui se retrouve détective et qui vit chez Robin Masters, un type qu'on voit jamais, qui écrit des romans policiers. Mais le majordome Higgins, lui, on le voit parce que il partage cette maison, ce fameux détective, avec le majordome Higgins. Notre ami Magnum n'est pas tout seul, il a des compagnons qu'il a connus au moment du Vietnam, il y a Tissy, il y a Rick, tout ça fait une bande de garçons qui s'entendent plutôt bien ou qui se chicanent. La série tient, et c'est pour ça qu'elle est intéressante à revoir et à offrir, parce que les 8 saisons sortent là dans un gros coffret DVD.
C'est l'intégrale, hein.
L'intégrale, voilà, on avait eu tous les ans une nouvelle saison remasterisée, là il y a la saison 8 qui sort, et du coup, en parallèle, bim, le coffret avec les 8. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans les années 80, l'Amérique racontait des histoires d'hommes de guerre, avec un côté comique, en étant à la fois dans le polar, dans la série de guerre, et puis dans la série humoristique, parce que c'est quand même très drôle, et comment ces deux personnages, notamment Magnum et Higgins, pouvaient se chicaner donc tous les deux, sachant que chacun représente, en quelque sorte, une histoire militaire du colonialisme, c'est-à-dire que Magnum c'est le vétéran du Vietnam abîmé par ça, et Higgins qui nous raconte en permanence les grandes épopées de la conquête anglaise, parce qu'il est britannique. Donc c'est vraiment très chouette à regarder, très chouette à offrir à votre oncle qui à l'époque vous refusez de regarder la télé pour dire mais si t'as loupé une série extraordinaire, à vous-même si vous voulez revoir et faire fonctionner votre mémoire épisodique. Non, c'est vraiment extraordinaire d'avoir enfin tout Magnum recueilli, avec en plus des bonus, avec l'interview de Donald Pelissario, le créateur, et de Mike Post, le créateur du fameux générique. Tan, 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 tan. Voilà.
Oh là là, Noël, il ne réussit pas. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, c'est chez qui?
C'est chez Elephant, voilà, qui édite l'ensemble du coffret.
Je vais dire une bêtise, il n'y a pas un crossover avec Arabesque?
Si, il y a un épisode avec Arabesque, oui.
Ça,
bien
on
évidemment.
Y reviendra un jour. Bon, heureusement, il y a quelqu'un qui connaît le 21e siècle, bah, oui, parce que je commence à me désespérer un tout petit peu. Christine Haas, vous nous parlez d'une série qui est encore en cours de création et de diffusion, mais dont le coffret des 5 premières saisons vient de
voilà,
sortir.
Voilà, ça serait la bonne idée, ça serait d'offrir donc ce coffret de 5 saisons qui est proposé par Arte Édition. Alors, on va y découvrir une fresque historique, sociale, familiale.
J'ai pas dit le titre, pardon.
Oh, Peaky Blinders.
Merci.
Peaky Blinders. On va y découvrir donc cette fresque historique, sociale, familiale, qui commence au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec les séquelles qu'elle laisse derrière elle. À Birmingham, donc au nord de l'Angleterre, soldats, révolutionnaires, gitans et criminels combattent pour se faire une place au sein des cités ouvrières. Alors, les frères Shelby, qui entretiennent des liens de sang assez complexes, sont à la tête du gang des Peaky Blinders et ils vont prendre le pouvoir. Le récit s'inspire de faits réels, les Peaky Blinders ayant sévi en Angleterre à la fin du 19e siècle, reconnaissables à leur look de dandy, avec les fameuses casquettes à visière dans lesquelles ils cachaient des lames de rasoir. Alors, la série, c'est Boardwalk Empire, façon western, hein, fantasmée par Steven Knight, qui est le réalisateur de Locke, scénariste de Tabou et beaucoup d'autres choses. C'est franchement quelqu'un de talentueux. Et qui sublime la misère humaine à travers une narration théâtrale, une solide reconstitution de l'époque, une violence très stylisée. Hein. Certains plans ressemblent à des tableaux où les personnages très romanesques sont magnifiés par une lumière très travaillée. Le tout accompagné de compositions inédites, notamment de Nick Cave, PJ Harvey. La distribution de Haut Vol. Bah, réunit plein de monde, hein, Paul Anderson, Ellen McCrory, mais surtout Sam Neill, Tom Hardy, Adrian Brody, tout ça autour du rôle principal qui est Cillian Murphy, charismatique et formidablement attachant. D'un point de vue strictement formel, on peut dire que c'est l'une des œuvres télévisuelles les plus éblouissantes de notre époque, avec en plus un regard assez original sur tout un pan de l'histoire du XXe siècle, puisqu'on y rencontre de vrais personnages.
Je suis
Churchill, Mosley, voilà.
Je suis totalement d'accord avec vous, je trouve que c'est une grande, grande série politique aussi, parce qu'elle voit naître aussi les prémices de l'IRA. Enfin, il y a énormément de choses dans cette série que je trouve remarquables. Donc merci aux deux vieux de nous avoir conseillé des séries un petit peu vintage, mais formidables et excellentes. Et merci à Christine Haas de s'être dit quand même, effectivement, la série continue d'exister de nos jours. Une heure en série, c'est fini. Mille merci à Benoît, Christine et à Isabelle d'y avoir participé. Cette semaine, nous vous avons recommandé ou pas Bad Mother sur TV. Je ne suis pas sûr qu'elle s'en remette. Prise au piège sur M6 ou Servant encore sur Apple TV. La semaine prochaine, nous évoquerons La foire aux vanités sur Arte. Rami sur Starplay. C'est une série dont j'avais fait ma pépite inédite au début de l'aventure d'une heure en série. Je suis ravi qu'elle soit enfin diffusée en France. Et puis Elleworld sur Canal+. Et ouais, nos copines lesbiennes reviennent pour une nouvelle saison et on en est ravis. Une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez déposer vos courriers. L'émission a été réalisée par l'excellente Marianick Rimbaud, la programmation musicale assurée par l'indispensable Muriel Pérez, préparée avec l'excellente Amel Kaldi et à la technique l'irremplaçable Paul Percheron.